RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Léa Boutin-Rivière.
Bonjour à toutes et à tous. Des frappes toute la nuit contre le territoire syrien. Israël a multiplié les raids aériens en réponse aux violences sanglantes cette semaine contre la communauté druze.
Plus qu'une heure pour déposer son bulletin dans l'urne en Australie pour un vote a priori sans surprise.
Les 18 millions d'électeurs du pays renouvellent en ce moment leur parlement. Le premier ministre sortant, Anthony Albanese, et les travaillistes devraient l'emporter. Il faut dire que son rival, Peter Dutton, a trop misé sur le style Trump pendant la campagne. Dans ce journal également, J-1 avant une nouvelle tentative de présidentielle en Roumanie. Et puis ce revers pour le milieu du jeu vidéo, la sortie de GTA 6 a été repoussée.
Le bruit des avions et des bombes a de nouveau retenti cette nuit au-dessus de la Syrie.
Israël a mené une vingtaine de frappes faisant un mort civil contre plusieurs régions du pays, l'attaqué Hama, Dera ou encore Damas, la capitale déjà touchée hier, non loin du palais présidentiel. Ces raids sont, c'est vrai, loin d'être les premiers que mène l'État hébreu depuis la chute de Bachar al-Assad, mais ils sont, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les plus violents. Et ils interviennent après une semaine d'affrontements ayant fait plus de 100 morts au sein de la communauté druze, cette minorité religieuse du sud du pays. Surtout, malgré la mise en garde des Nations Unies contre des violations de la souveraineté territoriale syrienne, malgré l'opposition exprimée clairement par le pouvoir en place, Israël persiste dans ses raids aériens, Alice Foussard.
À première vue, Israël, qui abrite aussi une population druze sur son territoire, veut se poser en défenseur des minorités de Syrie. Mardi, l'État hébreu frappait une première fois en banlieue de Damas. Un message ferme au gouvernement syrien, affirme Benjamin Netanyahou. Israël attend qu'il agisse pour protéger la communauté druze, justifie le Premier ministre. Mais ce soutien bruyant sert surtout les propres intérêts d'Israël, explique une habitante druze de Jaramana, jointe par téléphone, qui a préféré rester anonyme.
Israël essaie surtout de diviser la population pour diviser la terre, parce que c'est aussi leur but de mettre la main sur des villes comme Souaïda, Dera et sur les régions du sud de la Syrie. Les Israéliens veulent s'accaparer nos terres, ils veulent occuper des parties de la Syrie, ils utilisent ces violences confessionnelles comme un catalyseur, ils les instrumentalisent comme l'a fait le régime de Bachar al-Assad avant eux.
L'armée israélienne est solidement implantée en Syrie, sur Jabal al-Sher, autrement appelé le mont Hermon. Elle verrouille l'accès au plateau du Golan et a gagné du terrain depuis la chute de Bachar al-Assad. Dans le même temps, d'après le chercheur spécialiste de la Syrie Charles Lister, Israël ne veut pas d'un État fort à ses côtés, voire cherche à encourager un changement de régime. Quant au ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, en charge des finances, il a déclaré en début de semaine, je cite, qu'Israël devait démanteler la Syrie.
Israël qui a également dépêché des troupes terrestres sur le plateau du Golan. La communauté internationale, en tout cas, s'est faite discrète vis-à-vis de ces frappes. Réaction toutefois du côté des pays de la région. Le Qatar s'est indigné d'une agression flagrante contre la souveraineté syrienne, tandis que l'Arabie Saoudite a déploré des actes sapant la stabilité du pays. Les États-Unis, qui avaient il y a quelques jours condamné les violences contre la minorité druze, ont cette fois gardé le silence.
Washington plus préoccupé par son économie.
Après 100 jours de droits de douane sans limite, les voyants ne sont plus tout à fait au vert pour les États-Unis. Et si le président Donald Trump a voulu rassurer ce vendredi en martelant que ses choix allaient finir par doper l'économie américaine, il a reconnu l'existence d'un risque de récession dans cette période de transition. Cette question des droits de douane a pesé lourd dans la campagne électorale en Australie. Dans une heure, les bureaux de vote refermeront leurs portes. Toute la journée, les 18 millions d'électeurs du pays se sont pressés dans l'isoloir pour les élections législatives. D'un côté, les travaillistes au pouvoir, emmenés par un Anthony Albanese Premier ministre depuis 2022. De l'autre, le conservateur Peter Dutton. Les bookmakers n'auraient pas parié dessus il y a quelques mois. Et pourtant, Anthony Albanese semble largement favori de ce scrutin. Tiré vers le haut par les menaces américaines de guerre commerciale et par un rival un peu trop friand du style à la Trump, comme l'explique David Camroux, chercheur honoraire à Sciences Po.
Tout à fait, pour deux raisons. Premièrement, les travaillistes qui sont au pouvoir ont réussi à donner l'image du chef de l'opposition, Peter Dutton, comme une sorte de mini-Trump. Et Dutton lui-même a tombé dans le piège en utilisant les mêmes types d'expressions que Donald Trump, « make Australia great again », par ses attaques contre le wokisme, contre ce qui est progressif, et sur aussi les questions, disons, un peu de défense nationale. Et donc, la question gens qui est le mieux à même de confronter Donald Trump dans les négociations, surtout commerciales, se posent. La question se pose aussi, est-ce que les États-Unis est toujours un allié fiable? C'est ça la grande question. Et deuxièmement, si les États-Unis n'est pas un allié fiable, est-ce qu'on doit continuer de se fournir des armements aux États-Unis ou est-ce qu'il faut plus d'autonomie stratégique? Donald Trump est indirectement impliqué dans ces deux questions.
Propos recueillis par Heike Schmidt. Les Australiens aujourd'hui donc, et demain ce sera au tour des Roumains. Les bureaux de vote n'auront plus de secret pour eux, puisque ce dimanche, la population retourne voter pour la présidentielle après l'annulation sur le fil de la précédente élection en raison d'ingérences russes. Les autorités soupçonnaient une intervention de Moscou en faveur du candidat d'extrême droite Kalin Georgescu. Quelques mois plus tard, revoilà donc les électeurs prêts à glisser leur bulletin dans l'urne. Pour les Roumains de la diaspora, cela a même commencé dès hier avec une certaine lassitude, comme le raconte Gabriela, rencontrée devant un bureau de vote à Paris.
Je vote parce que je pense que c'est nécessaire dans la situation actuelle en Roumanie. Je pense qu'il faut être présent et agir, étant donné qu'il y a une sorte de tension et que les choses commencent à ne pas suivre la bonne voie. Donc je pense que c'est important aussi que nous, les étrangers qui ne vivons plus en Roumanie, qu'on soit présent et qu'on s'implique parce que c'est notre pays. Et voilà, je trouve que c'est important. J'attends que les choses rentrent plus dans le normal. Je trouve qu'actuellement en Roumanie, on a eu pas mal d'influence et que même on connaît très bien le contexte des élections passée et voilà, on attend un peu de l'apaisement et une sorte de structure et de l'ordre, mais bon, je sais que c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain et que ça prendra du temps, mais voilà.
Au micro de Vasile Damian du service en roumain de RFI, et parmi les thématiques qui auront dominé la campagne, la question de la souveraineté, du lien avec la Russie ou avec l'Union européenne, et enfin le coût de la vie, puisque l'inflation flirtait avec les 6% l'an dernier, rien en revanche sur le climat. Entre des chaleurs records et des sécheresses inédites qui ont détruit de très nombreuses cultures l'an dernier, la Roumanie est pourtant touchée au premier chef, comme l'Espagne, qui, elle, à l'inverse, a subi de violentes inondations il y a 6 mois. Malgré les aides de l'État, le secteur agricole est toujours aux prises avec les conséquences de ces pluies diluviennes et autres torrents de boue. Reportage Élise Gazangel.
6 mois après les inondations dans la région de Valence, certains champs dévastés ne sont plus cultivables. Mais les nouvelles aides du ministère débloquées le 23 avril dernier pour indemniser les propriétaires sont loin de les satisfaire. Vicence Noverques à Lombay, cultivateur de pêche.
Ils paieront 11 800 euros par hectare pour exproprier, mais juste les arbres ont coûté 30 000 euros. Et il faut au moins 3 à 4 ans pour obtenir de la production. Je fais quoi? C'est un combat de David contre Goliath.
Autre problème pour le secteur, le torrent de boue a détruit les routes et systèmes d'irrigation, mais il a aussi déplacé une espèce invasive dans les champs d'orangers. Près de Chiva, José Tamarit est découragé.
Ce champ, on va l'abandonner parce qu'on ne va pas réinvestir de l'argent pour cultiver l'oranger alors que ces roseaux vont grandir et les couvrir. Cet arbre, dans 3 mois, il sera mort.
Au total, près de 500 millions d'euros d'aides ont été alloués au secteur et le ministère de l'Agriculture n'exclut pas de débloquer de nouveaux fonds à mesure que les besoins seront identifiés. Élise Gazangel, Chiva, RFI.
RFI 9h09 à Paris et à la Grande Combe où Aboubacar Cissé a été tué vendredi dernier.
Hier, des centaines de fidèles se sont donc réunis devant plusieurs mosquées de France pour rendre hommage à ce jeune homme de 22 ans. Tué en pleine prière, Aram Beng s'est rendu devant un lieu de culte à Paris.
À la sortie de la prière de ce vendredi à la mosquée de Javel dans le 15e arrondissement de Paris, Aminata, une fidèle de 36 ans, exprime sa tristesse et sa peur après l'assassinat d'Aboubacar Cissé.
On est meurtri, on est triste, on a perdu un frère dans des circonstances terribles, horribles, qui font très peur parce qu'on laisse la haine s'installer dans ce pays, la cruauté s'installer et on voit que c'est tout un système qui participe, que ce soit le gouvernement, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la jeunesse maintenant aujourd'hui, parce que ça commence à faire peur cette jeunesse-là.
Outre la peur de la violence grandissante chez les jeunes, Aminata se dit choquée par la réaction tardive des autorités politiques, notamment celle du ministre de l'Intérieur, qui a mis plus de 48 heures avant de se rendre sur place.
Ah, le mot choc, il est trop petit pour dire à quel point il y a eu une absence totale de l'État par rapport à cet événement-là. Donc les raisons ont ouvert la porte, qui ont fait que l'État à ce moment-là a agi. Mais c'est vraiment triste d'arriver à ce point-là parce que ça montre la considération que l'État a pour la religion musulmane.
Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau recevra lundi prochain la famille d'Aboubacar Cissé.
À Rambeng. Et puis Julien, vous faites peut-être partie des 200 millions de personnes qui se sont laissées tenter par GTA V.
C'est le cas.
Ben, si c'est le cas, il va falloir vous en contenter encore quelques temps, puisque le petit frère du jeu, GTA VI, devait sortir à l'automne. Et finalement, ça ne sera que dans un an. Un coup dur pour l'éditeur de ce titre à succès, et plus largement pour tout le secteur, Guillaume Nodin.
Une chute de plus de 6% en quelques heures, c'est ce qui est arrivé à Wall Street au groupe américain Take-Two Interactive, maison mère de l'éditeur de jeux vidéo Rockstar. En cause, le report d'un jeu très attendu par les joueurs, le prochain épisode de l'une des franchises les plus célèbres et les plus rentables, Grand Theft Auto. L'éditeur explique qu'il a besoin de temps pour finaliser la qualité attendue par les amateurs de ce jeu qui permet d'entrer dans la peau de voyous amateurs de grosses voitures et de fêtes sur des yachts. Cela fait 12 ans que l'épisode précédent est sorti et il a été vendu à 200 millions d'exemplaires. Si les amateurs commencent probablement à trouver le temps long, ce sont surtout les investisseurs qui font savoir leur mécontentement, car ils s'attendaient à ce que la sortie du jeu fasse redémarrer le secteur en panne de croissance depuis le pic lié à la pandémie de Covid-19. Il faut y ajouter les droits de douane annoncés par les États-Unis sur les produits en provenance de Chine, qui ont entraîné l'annonce de hausse de prix par les fabricants de consoles Sony et Microsoft. En attendant, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'action du concurrent Electronic Arts a elle grimpé de plus de 3%. Son prochain épisode de Battlefield, un jeu de tir à la première personne, n'aura même pas besoin de s'en prendre à la concurrence à sa sortie. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
RFI, il est 9h12 ici à Paris et je vous laisse donc en compagnie de Julien Coquel-Rohem.
Et merci beaucoup Léa Boutin-Rivière, très bonne journée à vous. RFI Matin, troisième et dernière heure. On est ensemble jusqu'à 8h, temps universel, et dans un peu plus d'un quart d'heure, un nouveau point sur l'info africaine, la suite de nos reportages au Soudan avec Gaël Lalex. Juste après, ce sera le journal des sports et la suite de nos portraits de finalistes du prix Marc-Vivien Fauré qui sera décerné le 12 mai prochain. À suivre d'ici là, notamment le portrait de George Simeone, candidat d'extrême droite qui pourrait bien arriver en tête de la du premier tour de la présidentielle en Roumanie demain, mais tout de suite c'est la revue de presse. Avec vous, Catherine Potet, le tour de la presse internationale et à la une, le calvaire des Palestiniens à Gaza.
Gaza bombardée et affamée par le siège israélien, titre Le Monde. La population impuissante supporte l'insupportable, ajoute le quotidien français, citant un Gazaoui désespéré. Depuis le 2 mars, c'est-à-dire depuis 2 mois, précise Le Monde, aucun camion commercial ou humanitaire n'est entré dans l'enclave palestinienne. Plus rien n'entre dans le territoire supplicié, ni nourriture, ni médicaments, ni carburant. Après 2 mois de siège total par Israël, Gaza est au bord du gouffre, renchérit le temps. Les soupes populaires, sur lesquelles comptent de nombreux habitants de Gaza pour s'alimenter, sont à court de nourriture, explique le quotidien suisse, alors que 90% de la population dépend exclusivement de l'aide alimentaire et que le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, a fait savoir il y a une semaine qu'il avait effectué sa dernière livraison. Et puis, rôde ce sentiment terrible d'abandon, ajoute Le Monde. Interrogé par téléphone, un pharmacien se plaint que Le Monde ne semble pas dérangé qu'il y ait 50 morts par jour dans les bombardements. On ne voit aucune véritable pression pour mettre fin au blocus de Gaza, regrette Ziad, un professeur de français. Aucune véritable pression, ni des Nations Unies, ni des pays occidentaux, ni de voisins comme l'Égypte ou la Jordanie, explique-t-il.
À la une également, en ce 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse.
Journée choisie par le Washington Post pour parler des médias publics américains prêts à lutter contre l'ordre de Donald Trump visant à couper les fonds de PBS et NPR, autrement dit la télé et la radio publique, que le président américain accuse d'assurer une couverture médiatique biaisée et partisane. D'où l'ordre de couper les fonds des médias publics. Une mesure manifestement illégale, estime Paula Kerger, présidente directrice générale de PBS, qui déclare étudier toutes les options. Parmi elles, l'option juridique, selon des juristes cités par le Washington Post. Donald Trump a peut-être outrepassé ses pouvoirs et violé le premier amendement qui garantit notamment la liberté de la presse. Le président américain n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il est déjà empêtré, rappelle le Washington Post, dans une bataille judiciaire visant à interdire l'accès de la Maison-Blanche à l'Associated Press, sans oublier que la justice américaine a ordonné à Donald Trump le rétablissement de Voice of America, la radio-télévision de l'Amérique à l'étranger, dont il a également décidé de couper les fonds.
Enfin, Catherine, en France, le journal La Croix dresse le portrait du futur pape.
Le journal catholique a rencontré 15 cardinaux qui, nous dit-on, dévoilent le portrait robot du futur pape, lequel estime un cardinal italien devra d'abord être un pasteur. Cette semaine, l'on a persuadé, la baisse progressive du nombre de catholiques ne sera bientôt plus l'affaire de l'Occident seul, explique-t-il. Le collège des cardinaux, ajoute La Croix, semble aujourd'hui chercher quelqu'un de peu jargonneux, théologiquement solide, mais surtout à même d'aller au contact du terrain. Le futur pape, précise de leur côté certains cardinaux, ne devrait pas être trop jeune. Est-ce que l'on veut vraiment repartir pour un pontificat de 25 ans comme au temps de Jean-Paul II, interroge l'un d'entre eux. Il lui faudra la santé physique quand même, insiste un autre, car la tâche est écrasante. Enfin, d'où viendra le successeur de François ? Le cardinal autrichien Christoph Schönborn estime que l'Asie et l'Afrique influenceront l'avenir de l'Église. Ce n'est pas une idée, mais un fait, ajoute-t-il. Les cardinaux souhaitent aussi un rassembleur, une figure de compromis, quelqu'un qui sache écouter tout le monde, un homme fort, mais doux. La mission s'annonce difficile. Le conclave pour désigner le successeur de François commencera jeudi prochain et il durera jusqu'à ce qu'une fumée blanche annonce l'élection d'un nouveau pape.
La revue de presse avec vous, Catherine Potet. À demain. Dans l'Européen de la semaine, le retour au bureau de vote ce dimanche pour les électeurs roumains, 5 mois après l'annulation de la présidentielle pour des soupçons d'ingérence étrangère. Calin Georgescu, arrivé en tête en novembre dernier, est exclu du scrutin. Et c'est donc Georges Simion qui reprend le flambeau de l'extrême droite roumaine, avec l'espoir à son tour d'arriver en tête à l'issue du premier tour. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
À l'inverse de Calin Georgescu, que personne ou presque ne connaissait avant la dernière présidentielle, Georges Simion est lui une personnalité bien connue des Roumains.
Oui, en dépit de son jeune âge, 38 ans seulement, cela fait plusieurs années que Georges Simion fait parler de lui, à la tête de la formation qu'il a créée en 2019, l'Alliance pour l'unité des Roumains, un parti d'extrême droite nationaliste, eurosceptique et qui se pose en pourfendeur des élites. Georges Simion a un parcours pour le moins étonnant avant de fonder ce parti et de devenir donc le champion de l'extrême droite roumaine. C'est dans les tribunes des stades de foot qu'il se fait connaître. Sergiu Mișcuiu, professeur de sciences politiques à l'université de Cluj en Roumanie.
Il était l'un des leaders des groupes de supporters de l'équipe nationale roumaine et il s'est illustré par des cafouillages avec les gendarmes, notamment lors des matchs de l'équipe nationale, comme pas mal d'autres supporters le font dans ce genre de situation. Puis son activité a viré vers la contestation du néocommunisme en Roumanie, de l'ancien président Ion Iliescu, de ses conseillers. Ultérieurement, il passe par une phase où il défend l'unionisme, il fait de l'agitation pour l'union de la Moldavie avec la Roumanie, en mettant en avant l'identité commune roumaine de ces deux peuples.
Et juste après la fondation de son parti nationaliste en 2019, survient un événement qui va lui servir de catalyseur, la pandémie mondiale de Covid. Avec son talent pour la provocation et sa maîtrise des réseaux sociaux, Georges Simion s'empare de la lutte anti-vaccination et anti-confinement. Résultat, il effectue une percée inattendue aux législatives de 2020, en remportant 9% des voix. Georges Simion va alors tout miser sur l'échéance suivante, la présidentielle de 2024, en adoptant une stratégie bien connue au sein de l'extrême droite européenne, celle de la dédiabolisation.
Donc il a essayé d'acquérir un profil plus présidentiable, il a poli son discours, il a aussi fait des contacts à l'international et à la suite de tous ses efforts, il a pu s'imposer comme un leader de l'extrême droite, quand même en bannissant du parti les éléments les plus radicaux, comme M. Georgescu, qui était en 2020 sa proposition de Premier ministre.
Une stratégie, Daniel, qui ne va pas vraiment réussir à Georges Simion.
Oui, puisqu'il est distancé dans les urnes par l'homme qu'il a justement banni de son parti, Calin Georgescu, et qui adopte principalement sur le réseau TikTok une rhétorique bien plus radicale que lui. Accusé d'avoir bénéficié du soutien d'une puissance étrangère, Calin Georgescu est finalement disqualifié. Paradoxe, ce que l'extrême droite roumaine qualifie aussitôt de coup d'État offre une seconde chance à Georges Simion.
Avec cette fois un nouvel élément qui pèse lourdement sur la campagne électorale, le retour à la Maison Blanche de Donald Trump.
Et oui, car la nouvelle administration américaine, en particulier le vice-président J.D. Vance, a dénoncé l'annulation de l'élection et a porté un soutien explicite à l'extrême droite roumaine. George Simion assume ce soutien à 100% en arborant fréquemment la fameuse casquette rouge du mouvement trumpiste. Il assume ce soutien, et cela malgré les débuts quelque peu chaotiques du mandat de Donald Trump. Écoutez l'analyse de Florent Parmentier, secrétaire général du CVPOF à Sciences Po.
Le fait que le début soit chaotique montre précisément que Donald Trump essaie de s'attaquer à des forces plus grandes. Donc ça n'a pas affaibli en quelque sorte le rattachement à Donald Trump qui existe chez Simion. Et donc on a toujours la même idée qui est que, d'après George Simion, eh bien ce que cherche au fond Donald Trump, c'est la paix en Europe. Et l'idée que, eh bien, dans le cadre du conflit russo-ukrainien, il est préférable de laisser tomber l'Ukraine, d'abandonner une politique qui consiste à armer l'Ukraine pour aller vers une paix durable qui sera plus profitable aux Roumains. Et c'est le discours qu'essaie d'insinuer George Simion.
George Simion se revendique de Donald Trump, mais également d'autres figures souverainistes, en particulier en Europe, celle de Giorgia Meloni et de Viktor Orban. Pour l'heure, il est annoncé vainqueur du premier tour qui aura lieu ce dimanche. Largement vainqueur d'ailleurs, puisqu'il est crédité de 30 à 35% des voix. Au second tour qui aura lieu le 18 mai, en revanche, les choses s'annoncent un petit peu plus compliquées, car George Simion sera alors opposé au candidat unique du camp libéral et pro-européen.
L'Européen de la semaine avec Daniel Vallaud, merci beaucoup. Et ce deuxième premier tour de la présidentielle en Roumanie. On en parle évidemment demain sur RFI et RFI.fr. Bienvenue dans le game. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Alors que la sortie du jeu le plus attendu au monde, GTA 6, a encore été reportée hier à mai 2026, vous nous parlez d'un phénomène assez particulier dans le domaine du jeu vidéo et aux antipodes de cette attente. On appelle ça le shadow drop.
Oui, imaginez que vous vous promenez sur les réseaux sociaux et que soudainement, presque sans crier gare, un nouveau jeu est aussitôt annoncé, aussitôt disponible. Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé pour la sortie du jeu The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster. L'éditeur Bethesda a utilisé une puissante stratégie de marketing, ce qu'on appelle le shadow drop. Alors à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que les éditeurs y font appel? Aujourd'hui, on revient sur les enjeux de ce phénomène pour l'industrie du jeu vidéo. The Elder Scrolls est disponible, mais ce n'est pas tellement un nouveau jeu, puisqu'il s'agit d'une réédition du jeu qui était déjà sorti en 2006. Bethesda ne prend donc pas trop de risques, puisqu'ils connaissent déjà le potentiel marketing du jeu. Seulement cette fois, il est remis au goût du jour, avec les technologies et les graphismes plus actuels. Pour les développeurs, c'est donc l'occasion de faire découvrir la licence à de nouveaux joueurs, presque 20 ans plus tard, avec une annonce impactante que personne, ou presque, n'avait vu venir. Bethesda n'en est pas à son premier coup d'essai, puisque l'éditeur avait déjà utilisé la même technique pour la sortie surprise du jeu Hi-Fi Rush en 2023. On se souvient aussi d'Apex Legends d'Electronic Arts, qui avait aussi débarqué en 2019 sans crier gare et a immédiatement conquis des millions de joueurs grâce à un gameplay solide et un bouche à oreille, il faut le dire, fulgurant.
Alors pourquoi certains éditeurs optent-ils pour cette approche risquée en apparence ?
Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est pour créer un buzz immédiat, parce que l'effet de surprise peut générer une curiosité bien plus forte qu'une longue campagne marketing. L'annonce et la disponibilité immédiate incitent au partage et à la discussion en ligne. Il s'agit ensuite de contourner la saturation médiatique, car dans un marché où de nombreux jeux sont annoncés des mois, voire des années à l'avance, un shadow drop permet de couper court à la cacophonie et d'offrir une bouffée d'air frais. L'idée est de maîtriser le message, car en limitant les informations avant la sortie, l'éditeur garde un contrôle total sur la première impression et peut laisser les joueurs découvrir le jeu par eux-mêmes, favorisant ainsi les surprises et les moments un peu plus waouh. Enfin, le Shadow Drop sert vraiment à réduire les coûts marketing, car une campagne de promotion classique peut être très coûteuse. Le Shadow Drop permet donc de minimiser ses dépenses en s'appuyant davantage sur le bouche à oreille et la viralité.
Et Jennifer, qu'en est-il de la réception du côté des joueurs ?
Bon, en fait, pour les joueurs, c'est souvent une agréable surprise, une opportunité de découvrir un nouveau titre sans avoir été matraqué par des mois de marketing. Ça peut aussi favoriser l'essai de jeux auxquels les gens n'avaient pas forcément prêté attention autrement. Enfin, pour les développeurs et les éditeurs, c'est une stratégie audacieuse qui peut s'avérer payante si le jeu est de qualité et suscite l'intérêt. Cependant, le risque existe que le jeu passe inaperçu sans un minimum de communication.
Bienvenue dans le game. Merci Jennifer Lufaux. Et bientôt 7h30, en temps universel, dans notre reportage culture ce matin, un art rarement mis en valeur dans les musées et encore moins à cette échelle. Avec près de 230 œuvres réunies, le musée d'Orsay à Paris rend hommage à l'affiche illustrée, devenue un véritable phénomène de société dans la seconde moitié du 19e siècle. Elle a profondément transformé l'espace public. C'est ce qui inspire d'ailleurs le titre de cette rétrospective « L'art est dans la rue » que Carmen Lunzmann nous emmène découvrir.
Qu'elles annoncent le bal du Moulin Rouge où ventent vélos et chocolat, les affiches colorées ornent les murs, les kiosques, les urinoirs et les couloirs du métro, jusqu'à transformer des êtres humains en hommes sandwich ambulants. À la fin du 19e siècle, elles finissent par envahir tout Paris. Clémence Reynaud, conservatrice en chef architecture au musée d'Orsay, est l'une des commissaires de l'exposition « L'art est dans la rue ».
Souvent de très grands formats. Ces affiches vont susciter beaucoup de critiques, et notamment celle de Charles Garnier, qui considère que leurs tons sont criards, qu'elles sont de mauvais goût. Donc Charles Garnier va lancer un combat contre ce qu'il appelle les affiches agaçantes. C'est le titre d'un article qu'il publie dans la Gazette des Beaux-Arts en 1871.
Choquante pour certains, séduisante pour d'autres, ces affiches révolutionnent le Paris de la Belle Époque grâce aux quelques 8000 couleurs d'affiches et à un artiste ingénieux.
Le père de l'affiche moderne, c'est Jules Chéret qui va développer la lithographie en couleurs avec des couleurs de plus en plus éclatantes. Et dans les années 1880, apparaissent les premiers défenseurs qui considèrent qu'elle transfigure les rues de Paris, notamment Huysmans, qui critique la ville haussmannienne. Il en parle comme d'un décor pénitentiaire. Donc Huysmans se réjouit de la joie des couleurs qu'apportent les affiches de Jules Chéret dans la rue.
L'affiche sur le mur doit hurler, elle doit violenter le regard des passants, affirmait Henri-Gustave Jossot, autre fervent défenseur de cet art. Ces caricatures illustrent aussi bien des publicités pour des boîtes de sardines et des spiritueux que pour des journaux anticléricaux.
Les affiches traduisent, rendent compte des débats qui divisent profondément la société française à l'époque, débats sur la laïcité. Ce sont souvent des affiches qui ont une tonalité très virulente. Et les années 1880 sont également marquées par le développement d'un antisémitisme racial que certaines affiches reflètent.
Miroir de la société et symbole de la vie moderne, l'affiche incarne les luttes idéologiques, politiques et féministes sans temps, fantasmes et réalité. Sublimée par des peintres tels que Pierre Bonnard et Henri Toulouse-Lautrec, elle passe du simple support publicitaire à un objet de collection, devenant ainsi un art à part entière.
Dans la rue, dans la rue.
L'art est dans la rue au musée d'Orsay, c'est une exposition à découvrir si vous êtes à Paris ou pas loin jusqu'au 6 juillet. Et merci Carmen Lunzmann. Le journal dans une minute, à tout de suite.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Deux femmes que tout oppose, une écrivaine hostile au nazisme et une cadre des jeunesses hitlériennes, se retrouvent à errer dans un pays meurtri par la guerre. La seconde va devoir kidnapper la première. Dans son roman « Les Vagabondes », Florian Ferrier nous fait vivre les dernières semaines de la Deuxième Guerre mondiale, mais côté allemand.
L'art de raconter le monde, avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h40 TU, sur RFI.
100% création, Maria Afonso.
Le Palais Garnier célèbre cette année son 150e anniversaire. À cette occasion, 100% Création vous propose une rediffusion sur les métiers de l'Opéra National de Paris. Ce dimanche, nous avons rendez-vous avec Suzanne Dangel, responsable de production des costumes. Retrouvez-nous à 4h53, 6h54 et 12h54 temps universel sur RFI.